Vu la thématique générale du colloque, j'ai pensé faire une conférence historique, un peu d'histoire ou de préhistoire des êtres vivants. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup hésité entre faire de la science ou de l'histoire, et finalement, ayant fait de la biologie, je m'en suis sorti en m'intéressant à l'histoire des êtres vivants. Et là, j'ai parlé de préhistoire, puisqu'en fait, on va parler d'étapes pour lesquelles on n'a pas de fossiles. On pourrait dire que l'histoire des vivants, c'est à partir d'un moment où on a des fossiles. Alors oui, j'ai présenté une histoire qui sera plus axée sur la fin du XXe siècle, mais je parlerai un petit peu également du début du XXIe. Donc j'ai prévu de faire rapidement un petit rappel quand même du coup sur l'histoire de la biologie en général, les avancées principales qui avaient été faites au XIXe siècle déjà. Une des avancées essentielles, ça avait été de montrer vraiment un fossé un peu entre guillemets irréductible entre les êtres vivants et le monde inanimé, ce qui s'était matérialisé entre autres par la création du terme de biologie et par la définition de la biologie comme discipline propre. Donc, on sait que Pasteur a joué un rôle important là-dedans avec ses travaux sur la génération spontanée. La théorie cellulaire a également été une étape importante de l'avancée de la biologie au XIXe siècle. Et on verra que cela a encore des conséquences aujourd'hui, cette théorie cellulaire, puisque, par exemple, lorsqu'on parle des virus, les gens sont un peu gênés de savoir s'ils sont vivants ou pas, puisqu'ils ne sont pas cellulaires. La notion d'évolution, bien sûr, c'est une des avancées essentielles du XIXe siècle, dès le début du XIXe siècle, avec Lamarck. Et bien sûr, ce qui était le plus important, c'est la théorie de la sélection darwinienne, qui a permis d'identifier un des mécanismes de cette évolution. À partir du moment où on parle d'évolution des êtres vivants, ça veut dire qu'effectivement, ils ont une histoire. Ça, c'est le premier arbre universel du vivant qui a été présenté par Darwin. En fait, ce n'était pas un arbre universel, c'était un arbre présentant un mécanisme de l'évolution, avec donc, à chaque étape, chacun des barreaux de l'échelle, des variations qui étaient sélectionnées et qui donnaient de nouveaux types d'organismes. Le premier arbre universel du vivant, qui a été réalisé par Haeckel en 1866, et où on a vu une tentative, effectivement, de retracer l'histoire globale de la vie avec un arbre, en haut de l'arbre, les organismes actuels, et en bas, une racine plongeant vers les origines de la vie assez mystérieuse. Est-ce qu'il y a un... Oui, ça, pour... Ici. Ce qui est intéressant dans cet arbre, il était assez en avance pour son époque. À l'époque, la division du vivant était essentiellement encore en animaux végétaux. Il avait introduit les protistes comme une troisième branche, et ici, avec les monères, qui correspondraient maintenant à ce qu'on appellera tout à l'heure les prokaryotes, qui n'étaient pas à la base de l'arbre, comme ça a été mis plus tard, mais qui se trouvaient ici, un petit peu au milieu. Donc un arbre assez intéressant quand on l'examine un peu en détail. Les micro-organismes, ça c'est une découverte qui n'est pas du 19e, mais c'est au 19e qu'on a compris leur importance, on vient d'en parler avec la tuberculose. Les micro-organismes qui ont posé de gros problèmes aux gens qui voulaient s'intéresser à l'histoire de la vie, parce que dès le départ, à quoi correspondaient ces micro-organismes? Est-ce qu'ils correspondaient à des formes intermédiaires entre le monde minéral et le monde vivant? Donc ça a été au 19e siècle, entre autres par les travaux de Pasteur, clairement pas de génération spontanée, donc les micro-organismes font partie du vivant, mais comment les classer? Est-ce que ce sont des plantes? Est-ce que ce sont des animaux? La question a subsisté pendant très longtemps. Les bactéries, par exemple, étaient considérées comme des plantes parce qu'elles avaient une paroi épaisse. Et lorsque j'ai fait mes études à Jussieu, à la fac de sciences, j'ai encore, la première fois que j'ai entendu parler de bactéries, c'était dans le cours de biologie végétale. Donc, je crois qu'encore, ça doit se représenter. Alors, comment retracer l'histoire du vivant? En fait, la première moitié du XXe siècle a vu se développer différentes approches pour reconstituer l'histoire des êtres vivants. Je les résume très très brièvement ici. On a l'approche phénétique, qui en fait, qui se ressemble, s'assemble. C'est-à-dire qu'on va essayer de grouper les organismes en fonction de leur ressemblance. C'est une approche qui a été progressivement rejetée par les évolutionnistes qui s'intéressent aux étapes plus récentes de l'évolution. On verra pourquoi tout de suite. Le gradisme, une tendance à rechercher, en fait, à établir des principes d'évolution sur la base d'une évolution du simple vers le complexe. L'évolution passe par un certain nombre de grades. Et puis la phénétique évolutive, ce qu'on appelle parfois l'analyse cladistique, qui a été élaborée par Willy Hennig dans les années 50. Je ne sais pas si sa date de naissance, la date de sa mort. C'est la date de publication de son principal ouvrage et de sa traduction en allemand et de sa traduction en anglais, qui a finalement élaboré une méthode, entre guillemets, scientifique pour déterminer l'histoire des êtres vivants. Et c'est cette méthode qui est maintenant reprise par pratiquement tous les évolutionnistes. Juste, je vais illustrer ce point un petit peu. La phénétique, on va grouper les organismes en fonction de leur ressemblance. Donc si on s'intéresse aux poissons et à l'homme, on va considérer que les poissons, on va mettre les poissons ensemble. Et on va faire un arbre phylogénétique, par exemple, avec ici, les poissons sont frères et nous sommes les cousins. Or, nous savons que ce n'est pas vrai, puisque nous descendons d'une lignée de poissons. Donc la phénétique peut nous donner de fausses réponses quand on cherche à reconstituer l'histoire de la vie. Le gradisme, eh bien, on va considérer que les mammifères sont une organisation supérieure à celle des poissons. Donc là, on peut avoir une bonne réponse, en ce sens qu'on va faire ressortir les mammifères des poissons, mais finalement, on ne sait pas de quel groupe de poissons ressortent les mammifères. Et puis, on donne aussi un sens à l'évolution avec lequel tout le monde n'est pas forcément d'accord. Enfin, un certain nombre de poissons pourraient s'insurger contre cette vision des choses. L'analyse cladistique va permettre de retrouver la bonne réponse. L'homme est groupe frère d'un groupe de poissons et cousin d'un autre groupe. Simplement, on va à ce moment-là chercher des caractères qui permettent de définir des caractères communs à l'homme et aux poissons, à ce groupe de poissons absent chez l'autre groupe. Donc là, j'ai mis des caractères rouges et verts que je n'ai pas précisés. Le caractère rouge, comment savoir en fait s'il faut regrouper les organismes avec le caractère rouge ou en fonction du caractère vert? La seule façon, c'est d'avoir un groupe extérieur qui est extérieur clairement aux trois groupes auxquels on s'intéresse, qui a le caractère vert, donc ça veut dire que le caractère vert était ancien, c'est un caractère primitif qui n'est pas intéressant, qui ne nous permet pas de classer ces trois groupes ici. Par contre, le caractère rouge, si on ne le retrouve pas là, on peut imaginer que c'est un caractère nouveau qui est apparu dans cette branche et qui donc permet de dire que les hommes et ce groupe de poissons sont communs. Alors, ça paraît comme ça du bon sens, ça a mis beaucoup de temps, ce type de raisonnement, à être vraiment utilisé dans la communauté scientifique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toujours évident de polariser les caractères, c'est toujours très tentant d'avoir un grand nombre de caractères, même s'ils ne sont pas polarisables, et on va voir qu'en fait, à l'heure actuelle, toutes les techniques moléculaires qui sont utilisées pour faire des phylogénies des arbres n'utilisent pas cette approche, et du coup, peut aboutir à des résultats parfois faussés. Bien sûr, la cladistique a été souvent attaquée parce que dans ce genre d'analyse, on va considérer que les poissons n'existent plus. Il faudrait trouver un nom pour le groupe ici. Ça, quand vous dites que les poissons n'existent plus, c'est très difficile à avaler. Alors, toujours rapidement, la première moitié du XXe siècle, on a mis en évidence l'unité chimique du monde vivant, l'identification du gène et des mécanismes de la variation, et la définition de deux types cellulaires. Ça a été une avancée importante, eucaryote et prokaryote, mais qui a créé d'autres problèmes, on va y revenir. Et puis la découverte des virus, et comme je l'ai déjà dit, est-ce que c'est éventuellement une entorse à la théorie cellulaire? Donc là, maintenant, on est dans une situation où, clairement, on a un monde vivant unifié et bien défini. Tous les êtres vivants actuels sont composés des mêmes macromolécules. On en a déjà parlé, les protéines, donc on vient de voir, l'ADN et l'ARN. Et donc, clairement, tous ces êtres vivants ont une histoire commune, dérivent d'un ancêtre commun, entre autres. Alors, je reviens rapidement sur la définition de la cellule prokaryote, qui a été établie assez tôt, mais qui ne s'est imposée, en fait, dans la communauté scientifique que plus tard, avec l'utilisation systématique du microscope électronique. C'est une division où le monde vivant se retrouvait divisé entre des organismes prokaryotes, ayant des cellules sans noyau, et des organismes eucaryotes, donc ceux ayant des cellules avec un noyau. Alors, prokaryote, du point de vue évolutif, prokaryote, ça veut dire « avant le noyau », ce qui fait que tout de suite, cette distinction suggérait au niveau évolutif une histoire dans laquelle les prokaryotes précédaient les eucaryotes. Alors cette définition eucaryote-prokaryote, en fait, a connu beaucoup de succès après l'introduction de la microscopie électronique en biologie, où on a effectivement pu mettre en évidence le fait que chez les bactéries en particulier, chez les bactéries, donc, on n'avait pas de noyau, l'ADN était directement au contact des composants de ce qu'on appelle le cytoplasme. Et en particulier, les petits points blancs ici sont censés représenter les ribosomes, donc les mécanismes, les organites qui permettent la synthèse des protéines. Dans la cellule eucaryote, donc, on a un noyau. La conséquence, bien sûr, c'est que l'ADN ici, du coup, est séparé du cytoplasme par une membrane, la membrane nucléaire. Donc, alors qu'ici, on peut directement traduire les ARN messagers qui sont transcrits au niveau de l'ADN, là, ces ARN messagers vont devoir transiter du noyau vers le cytoplasme, donc à travers cette membrane nucléaire. Alors, du coup, on aboutissait à une vision de l'évolution assez simple. On avait d'abord les prokaryotes, ensuite les eucaryotes inférieurs, donc les micro-organismes avec des noyaux, et puis au-dessus les eucaryotes supérieurs, et au-dessus les eucaryotes supérieurs, Pasteur. Cette vision des choses est encore aujourd'hui largement répandue dans tous les bouquins, dans les cours, partout, et même, en fait, on entend encore beaucoup... Oui. On entend encore beaucoup parler d'eucaryotes inférieurs ou d'eucaryotes supérieurs, parler en particulier les biologistes moléculaires qui ne connaissent pas trop l'évolution, utilisent très souvent cette terminologie. Alors, cette vision semblait aussi corroborée par le fait qu'on a pu montrer de façon très claire que certains des organismes que l'on trouve dans la cellule eucaryote, les mitochondries qui produisent l'énergie et les chloroplastes qui font la photosynthèse, sont d'origine bactérienne. Donc, ayant des organismes d'origine bactérienne, les eucaryotes forcément étaient venus après les bactéries, donc ou les prokaryotes. Alors ça, c'est une vision un peu un arbre tel qu'on pouvait l'imaginer au début des années 70, où on avait en fait au départ, en bas de l'arbre universel, un prokaryote ancestral qui s'était diversifié pour donner différentes lignées eucaryotes, et puis un deuxième étage de la fusée avec les eucaryotes qui s'étaient à nouveau diversifiés. Donc on savait que les chloroplastes des cellules végétales provenaient des cyanobactéries, que les mitochondries provenaient d'autres bactéries, et certains auteurs pensaient que peut-être le noyau de la cellule eucaryote, même les flagelles, enfin toute la cellule eucaryote aurait été un chimère de différents prokaryotes. Alors, là où on était embêté pour reconstruire un petit peu plus avant cette évolution, c'est qu'en fait on avait un problème, comment classer sérieusement, arriver à classer tous ces micro-organismes qui étaient si proches les uns des autres. Alors l'homme est toujours bien sûr en haut. Comment classer les micro-organismes? Enig ne s'est jamais posé la question parce qu'il travaillait sur les insectes, mais il aurait pu se la poser parce qu'en fait, quand vous vous intéressez aux micro-organismes, il y a très peu de caractères homologues que l'on puisse polariser pour savoir si telle bactérie gramme plus est plus proche de telle autre bactérie gramme plus que d'une bactérie qui est gramme moins, parce qu'en fait, il y avait énormément de problèmes qui se posaient. Alors, ce qui a permis d'avancer, bien sûr, là, c'est vraiment des avancées méthodologiques et des avancées techniques, essentiellement les méthodes de séquençage des protéines et des acides nucléiques. Là, vous avez en fait Frédéric Sanger qui a inventé dans un premier temps les méthodes de séquençage des protéines, premier prix Nobel, et ensuite les méthodes de séquençage de l'ADN, deuxième prix Nobel. Là, vous avez Linus Pauling qui, avec Zucker Candle en 1965, a publié un article qui est considéré comme fondateur de ce qu'on appelle maintenant la phylogénie moléculaire, où ils ont pour la première fois avancé l'idée d'utiliser les séquences de ces macromolécules comme témoin, disons, de l'évolution, pour reconstruire l'évolution des organismes en comparant ces séquences chez les différents organismes. Voilà, donc on va utiliser les séquences. Ici, ce sera un ARN avec AUGC. Et on va partir du principe qu'en fonction du temps, les séquences divergent par mutation. Plus les organismes sont proches, et plus ils ont gardé de points communs, et donc leurs séquences se ressemblent. Et là où ça devient très intéressant, c'est que certaines de ces macromolécules sont présentes également chez les micro-organismes. Donc, du coup, on va avoir d'un seul coup accès à un très grand nombre de caractères qui vont permettre de, éventuellement, essayer de retracer l'évolution non seulement des eucaryotes complexes, mais également des micro-organismes. Ceci dit, on va tout de suite, vous voyez que ce type d'approche va remettre au goût du jour, en fait, une analyse que j'ai appelée au départ phénétique, c'est-à-dire qu'en fait, on va essentiellement travailler sur les ressemblances entre macromolécules, donc on va avoir des approches phénétiques. On pourra en discuter, mais finalement, toutes les approches de phylogénie moléculaire, même celles qui semblent être basées sur la cladistique, en général ne le sont pas, parce que c'est très difficile de polariser les caractères correspondant à des nucléotides ou des acides aminés. Alors, quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est Carl Woese, un chercheur américain qui était un physicien au départ, d'ailleurs, qui ensuite s'est intéressé, comme beaucoup de physiciens des années 50, à la biologie moléculaire, qui a travaillé sur l'origine du code génétique et qui, dans les années 70, s'est attaqué au problème de l'évolution justement des micro-organismes et qui a eu comme idée géniale, en fait, de choisir comme molécule témoin de l'évolution une molécule qu'on appelle un ARN, l'ARN 16S, qui est en fait la molécule d'ARN qui est présente dans la petite sous-unité du ribosome. C'est une molécule qui est ubiquitaire, présente chez tous les organismes cellulaires. Donc là, on verra tout à l'heure qu'on a à nouveau un problème avec les virus. C'est une molécule présente chez tous les organismes cellulaires qui a plus ou moins la même fonction, elle fait partie du ribosome, qui à l'époque était facile à isoler, et qui était plus... Enfin, il y a trois molécules d'ARN dans le ribosome, une qu'on appelle 5S, la plus petite, une 23S, la plus grosse. À l'époque, il y avait plus d'informations dans la 16S, La 16S était plus facile à étudier que la 23S, donc le choix de la 16S a été une sorte de compromis entre le 5S et le 23S. Aujourd'hui, avec les méthodes modernes que l'on a de séquence d'amplification de l'ADN et de séquençage, on aurait directement démarré sur le 23S, mais pour des raisons historiques, donc, Carlouze a démarré sur le 16S, et aujourd'hui encore le 16S, donc maintenant il y a des banques de données avec des dizaines de milliers de molécules de 16S, est devenu la pierre de rosette vraiment des biologistes pour retracer l'évolution. Alors, rapidement, je voudrais faire un petit point d'histoire, mais vraiment revenir comment Carlouze a utilisé cette méthode. À l'époque, en fait, c'était en 70, on ne savait pas encore séquencer l'ADN. Les méthodes de séquençage de l'ADN ont été inventées en 77. Donc il a utilisé une astuce, également mise au point par Sanger, encore lui, qui consistait à prendre un enzyme qui coupait l'ARN systématiquement à droite d'une guanine, la lettre G, d'obtenir donc des oligonucléotides, un mélange d'oligonucléotides, et de comparer ce qu'il appelait des catalogues d'oligonucléotides chez différents organismes. Donc ça, c'est la méthode, je vais pas détailler, simplement, on obtenait un gel à deux dimensions avec des taches noires puisque les oligonucléotides étaient radioactifs, les cellules avaient été marquées avec du phosphore 32, et en fait, ce pattern de taches permettait de comparer les organismes entre eux, en utilisant une mathématique très très simple. Il considérait le nombre d'oligonucléotides présents dans le catalogue d'une espèce donnée, A, une bactérie quelconque, le nombre d'oligonucléotides dans le catalogue de l'espèce qu'il voulait comparer, B, le nombre d'oligonucléotides communs, et il calculait un coefficient de similarité qui était égal à deux fois le nombre de nucléotides communs sur l'ensemble des oligonucléotides dans les deux catalogues. Ce qui fait qu'en fait, bien sûr, plus deux organismes avaient d'oligonucléotides en commun, plus, d'après lui, ils étaient proches au niveau de l'évolution. Donc, vous voyez, une méthode tout à fait phénétique, vraiment de ressemblance. L'application de ces méthodes, là, c'est très schématisé. J'ai repris quelques valeurs obtenues lorsqu'il a comparé un certain nombre d'organismes. Il faut savoir qu'en dessous de 0,1, ce n'est pas significatif. Donc, en fait, quand on compare dans cette méthode un homme, ici, et une bactérie, vous avez une valeur inférieure à 0,1, ce qui indique simplement que nous sommes très éloignés sur le plan évolutif des bactéries. Par contre, si on compare un homme et une levure de bière, ça tombe bien, eh bien on voit 0,33, ce qui en fait est relativement élevé, ça veut dire qu'on est très proche d'une levure de bière. C'est pas évident, si vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un est-ce que les levures de bière sont plus proches des bactéries que de l'homme, ils vont dire bah, ça se ressemble, les levures de bière ça fait des colonies sur bois, ça ressemble vraiment à des bactéries. Mais en fait c'est très proche de nous alors que les bactéries sont très éloignées. Si on compare d'ailleurs une levure de bière avec une bactérie, pareil, on a une valeur très faible, non significative. Si on compare maintenant une cyanobactérie avec une bactérie, on a une valeur, vous voyez, assez élevée. Par contre, si on compare une cyanobactérie avec un chloroplaste, là, je n'ai pas mis de chloroplaste, mais vous avez également une valeur très élevée. En fait, ça, c'est un travail qui a été publié dans Nature en 1975, et c'est la première fois qu'on démontrait rigoureusement que les chloroplastes dans les cellules eucaryotes provenaient bien des cyanobactéries, puisque quand on comparait, par contre, l'ARN du ribosome du chloroplaste avec l'ARN d'une plante, eh bien, on avait également une valeur non significative, ce qui voulait dire que le chloroplaste était bien un procaryote et pas un eucaryote. Donc, dans un premier temps, vous, en fait, avez retrouvé cette distinction eucaryote-procaryote qui avait été observée en microscopie électronique. Ce qui a été très intéressant, c'est lorsqu'il a... Voilà le chloroplaste. Lorsqu'il s'est intéressé en 1977 à des bactéries qu'on appelait à l'époque des bactéries méthanogènes, donc des bactéries qui produisaient du méthane, il a obtenu des résultats tout à fait inattendus. Lorsqu'il comparait ces bactéries méthanogènes avec l'homme, il avait toujours quelque chose de non significatif, c'est très bien, mais quand il comparait ces bactéries méthanogènes avec des bactéries classiques comme Escherichia coli, à nouveau, il avait une valeur non significative. Donc ça, c'est une grosse surprise. Et en fait, de là, il lui est venu l'idée que ces bactéries méthanogènes n'étaient pas des vraies bactéries, mais représentaient en fait un troisième groupe d'êtres vivants sur Terre. Il faut dire qu'il était financé à l'époque par la NASA, c'était un petit peu avant les manips de Viking, et il avait réussi à se faire financer par la NASA en disant que sa méthode, il développait une méthode permettant de caractériser les organismes, et donc si on trouvait des organismes sur Mars, eh bien, sa méthode pourrait être utilisée pour les identifier. C'était complètement mensonger, bien sûr, puisque ça voudrait dire qu'on allait trouver des martiens avec de l'ARN 16S, mais ça a marché, la NASA lui a donné de l'argent, et il a trouvé une troisième forme de vie sur Terre. Donc comme quoi, ce qui est important, c'est d'avoir de l'argent, c'est pas ce que l'on met dans la demande de financement. Alors, ce qu'il a montré, c'est qu'il existait d'autres organismes, d'autres procaryotes que l'on pensait jusque-là être des bactéries, qui n'en étaient pas et qui, en fait, étaient proches des méthanogènes et des organismes tout à fait inattendus, comme ici des halophiles, des organismes qui vivent dans les marais salants, qui aiment des très fortes concentrations de sel, ou ici les thermoacidophiles, des organismes qui vivent dans des sources chaudes, à très haute température, milieu très acide. Et donc, il a, de ce fait, proposé l'existence d'un... proposé l'existence en 1977 dans PNAS, avec son étudiant George Fox, d'un troisième groupe d'êtres vivants sur Terre qu'il a appelé à l'époque les archébactéries, par opposition aux bactéries classiques qu'il proposait d'appeler les zoobactéries. Alors ça, c'était vraiment un concept nouveau, ce concept d'archébactéries, qui, pour moi, bien sûr, puisque nous travaillons sur ces micro-organismes, est l'une des plus importantes découvertes du XXe siècle. Lorsqu'on a pu séquencer complètement des molécules d'ARN 16S, on a pu à ce moment-là comparer directement les séquences et faire vraiment un arbre phylogénétique, demander tout au moins à l'ordinateur de faire un arbre phylogénétique, et on a abouti effectivement à une division du monde vivant en trois domaines. Alors maintenant, je vous expliquerai pourquoi on parle d'archées, plus d'archébactéries, de bactéries et de caryotes. Ce que je vais vous montrer dans cet arbre, c'est que vous voyez qu'ici, les champignons, les plantes et les animaux, en fait, forment une toute petite partie de cet arbre universel du vivant. 95% ou 98% de la biodiversité correspond à des micro-organismes. Et bien sûr, j'essaie de me battre pour qu'au niveau des crédits, 98% des crédits de la recherche soient donnés aux microbiologistes, mais là, j'ai aucun succès. Et bien sûr, les gens s'intéressent encore beaucoup aux animaux, un peu moins aux végétaux maintenant avec l'histoire des OGM, mais quand même. Alors, ce n'est pas du tout étonnant, finalement, que l'on ait cette distorsion entre la diversité qu'on trouve chez les micro-organismes et la diversité qu'on trouve chez les macro-organismes, puisque les micro-organismes sont sur Terre depuis 3 à 4 milliards d'années, on ne sait pas exactement combien. Les macro-organismes, j'ai mis 580 millions pour la faune de Burgess, bon, c'est peut-être un peu plus, mais disons, les animaux, les végétaux ou autres sont apparus beaucoup plus récemment et donc n'ont pas eu le temps d'explorer des espaces de séquences aussi considérables. Ils ont été dans d'autres directions et à l'an prochain, on vous en parlera tout à l'heure. Alors, les archées, ça a été le concept vraiment mis en avant par Carl Wood. C'est donc un des troisièmes domaines du vivant, considéré comme le troisième domaine du vivant aujourd'hui. Très, très, très grande diversité. Et l'année dernière, on a découvert de nouvelles archées, par exemple, qui ont inventé le grappin. On pensait que les hommes pensent toujours avoir inventé beaucoup de choses. Hein. On pensait avoir inventé la bipédie. Vous avez vu tout à l'heure qu'en fait, les molécules avaient inventé la bipédie, comment on marchait en mettant un pied devant l'autre bien avant nous. Mais en fait, les archées avaient inventé le grappin. Ce n'est pas les pirates qui ont inventé le grappin. Ce sont les archées bien avant nous. Vous voyez ici cette archée qui est entourée de filaments. Chaque filament est terminé par un grappin. On ne le voit pas très bien, mais c'est vraiment avec une petite flèche à l'extrémité pour bien accrocher sa voisine. Ce qui a convaincu la plupart des gens qui s'intéressent au problème de l'originalité en fait des archées, c'est aussi le fait qu'elles ont des lipides très particuliers qui sont inverses par rapport aux lipides des bactéries et des eucaryotes. Nos lipides sont des lipides droits, les lipides sont asymétriques comme les acides aminés ou les sucres, alors que ceux des archées sont gauches, donc il y a une asymétrie inverse. Hein. Donc ça c'est un autre problème, hein, s'il y a des questions sur l'asymétrie dans l'univers. Cette découverte des archées était très importante. Je prendrai juste un exemple. Ici, vous avez l'appareil de transcription. Donc, la transcription, c'est comment on passe de l'ADN à l'ARN messager avec un enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Chez les bactéries, cette ARN polymérase comporte 3 sous-unités. Donc, elle est relativement simple. Chez les eucaryotes, elle comprend 12 sous-unités. L'explication, eh bien, elle était simple. C'est que les hommes sont quand même mieux que les bactéries. On est plus évolués. Vous voyez, on est en haut, les bactéries sont en bas. Donc, les bactéries ont une ARN polymérase très simple, primitive. L'homme a une ARN polymérase complexe qui permet d'avoir des systèmes de régulation multicellulaires, etc., etc. Lorsqu'on a pu étudier l'ARN polymérase des archées, on s'est aperçu que l'ARN polymérase des archées avait 12 sous-unités comme celle de l'homme et qu'elle était en fait très proche de celle de l'homme. Donc, toutes les explications précédentes tombaient à l'eau. On avait ici des organismes prokaryotes, aussi petits qu'une bactérie, très simples, qui avaient une ARN polymérase aussi compliquée. Et pourquoi ? Eh bien, maintenant, on ne le sait plus. Ce que cela montre également, c'est qu'en fait, les archées sont plus proches de nous que des bactéries. C'est pour ça qu'on ne parle plus d'archébactéries maintenant, parce que les gens continuent de confondre en disant, mais les archébactéries, qu'est-ce que c'est ? C'est des bactéries un peu bizarres qui vivent dans des conditions un peu extrêmes. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment nos sœurs et les bactéries, nos cousines. Alors voilà, ça c'est l'article de 90, où Carl Woese a effectivement proposé de changer la nomenclature et de parler d'archées au lieu d'archébactéries, à partir du moment où on avait affaire à deux groupes frères. Alors, là, c'est assez curieux, parce que si vous vous rappelez l'histoire des poissons tout à l'heure, en fait, on devrait trouver un nom pour le groupe correspondant, le clade correspondant aux archées et aux eucaryotes, et un autre nom pour les bactéries. En fait, la distinction du monde vivant en trois, si on croit dans cet arbre, elle est basée sur une vision a priori gradiste, et pas cladiste. Donc là encore, il y a des enjeux un petit peu philosophique. J'y reviendrai. Le travail de Carlouze a été finalement reconnu il y a 2 ans. Il a reçu le prix Crafoord à Stockholm, des mains du roi de Suède. Il n'a pas eu le prix Nobel. Son travail a été très long à reconnaître. Beaucoup de gens s'y sont opposés. Alors on peut le comprendre. En fait, l'homme aime bien les divisions binaires, hein, le yin, le yang, le masculin, féminin, la gauche, la droite, le oui, le non, le plus, le moins, les animaux, les végétaux. Et de remplacer donc la division binaire eucaryote, procaryote par une division en 3, il y avait une réticence idéologique très forte. Et dans la pratique, en fait, par exemple pour la réforme du LMD, bon, j'ai pas été à toutes les réunions, et il y a à nouveau l'enseignement de la biologie moléculaire des eucaryotes et des procaryotes. Donc c'est une distinction qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a la Trinité pour le monde vivant divisé en 3 domaines. Alors, à l'Institut Pasteur, donc, comme on l'a dit, récemment, j'ai monté une unité travaillant sur les archées. Là, vous avez le nombre, globalement, le nombre d'unités à Pasteur qui travaillent sur les eucaryotes, le nombre d'unités qui travaillent sur les bactéries, le nombre d'unités qui travaillent sur les archées. Vous voyez que c'est un concept qui a encore beaucoup de mal à avancer. C'est une diapo que j'avais fait pour la conférence de présentation à Pasteur, bien sûr. Alors, en France, en particulier, on peut voir qu'il y a un problème qui date de Jacques Monod. Jacques Monod avait dit ce qui est vrai pour le colibacy, il est vrai pour l'éléphant. Et en fait, une des conséquences, c'est que lorsque les gens ont eu l'impression qu'ils savaient tout sur les bactéries, tous les grands biologistes français ont presque shifté sur les eucaryotes. Ils sont tout de suite passés directement des bactéries aux eucaryotes. Et lorsque Carlouze a publié en 1977 son article sur les archées, personne ne s'en est aperçu et personne n'a travaillé sur les archées avant de très nombreuses années. Alors qu'en fait, les archées étant nos frères, il est beaucoup plus facile souvent d'étudier un mécanisme chez les archées que chez les eucaryotes, et ce mécanisme est beaucoup plus proche du mécanisme eucaryote que celui qu'on observe chez les bactéries. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les bactéries, hein, surtout les bactéries infectieuses. Alors, comme je disais, un certain nombre de gens très connus, hein, d'évolutionnistes comme Ernst Mayr, qui est mort l'année dernière à l'âge de 101 ans, qui était un des plus grands évolutionnistes du siècle dernier, s'est opposé à Carlouze par rapport à cette dichotomie, à cette idée de remplacer la dichotomie eucaryote-procaryote par une trichotomie. Et c'est vrai que si on revient sur l'arbre tout à l'heure, on pourrait se dire, mais après tout, Carlouze a voulu se faire de la publicité en parlant de 3 domaines, on peut mettre la barre ici, et là vous avez les eucaryotes, et puis là finalement vous avez les procaryotes. Alors c'est un débat qui continue encore jusqu'à nos jours, mais qui va peut-être s'arrêter, parce que maintenant on a trouvé des bactéries qui ont des noyaux. Des bactéries eucaryotes. Elles ont été découvertes en 1992 par un chercheur australien, John First. C'est encore très peu connu. Récemment, il a montré que la surface de ce noyau, on avait des pores qui ressemblent un petit peu aux pores nucléaires eucaryotes. Là, dans ce cas-là, vous avez des ribosomes à l'extérieur et à l'intérieur, mais il y a des ribosomes à l'extérieur, ce qui fait que l'ARN messager, tout l'ADN est ici, doit être transféré. Et dans des éponges, en symbiont, il a trouvé beaucoup d'autres bactéries qui ont des noyaux. Donc il y a des bactéries qui ont des noyaux. Donc on voit vraiment que la distinction eucaryote-procaryote, en fait, a une valeur structurale, mais n'a pas de sens sur le plan évolutif. Alors, je reviens sur l'histoire de tout à l'heure. Est-ce que Carlouze est un cladiste ou un gradiste? En fait, la façon qu'il a de s'en tirer dans des papiers récents, c'est de considérer que tous les organismes vivants descendent donc d'un ancêtre qu'il appelle un progénote. Et pendant très longtemps, en fait, on avait des cellules qui étaient assez différentes des cellules modernes. Et on a eu 3 fois indépendamment cristallisation des apparitions des cellules modernes, il ne donne pas vraiment d'explication, ralentissement de la vitesse d'évolution des protéines, cristallisation de ces 3 domaines. Donc finalement, on a vraiment un système de gradisme. Alors un concept du coup qui est vraiment apparu à la fin du siècle dernier, très important, c'est le concept du dernier ancêtre commun, qu'on appelle maintenant LUCA, The Last Universal Common Ancestor. Et pas mal de recherches maintenant commencent à tourner autour de cette idée. Est-ce qu'on peut arriver à non seulement à reconstruire la topologie de l'arbre, mais à essayer de savoir un petit peu ce qui se passait au niveau de la racine? Alors il y a énormément de controverses à ce sujet. Il n'y a absolument aucune... les gens ne sont pas du tout d'accord. Il y a différentes hypothèses. Une hypothèse très à la mode aujourd'hui, c'est de penser que les eucaryotes sont apparus par la fusion de bactéries et d'archées. Les archées auraient donné le noyau de la cellule eucaryote, les bactéries le cytoplasme. Ça, c'est une hypothèse qui est très populaire, mais à laquelle je ne crois pas du tout. Mais il y a des gens qui sont, y compris ici à Orsay, des gens qui sont tout à fait en faveur de cette hypothèse. La vision un peu plus classique ici, ou bien des visions plus originales, où LUCA aurait été en fait plus proche des eucaryotes et des archées, et où les bactéries seraient très, très dérivées. Un des grands mystères, en fait, c'est l'origine du noyau de la cellule eucaryote. Dans cette hypothèse, bien sûr, le noyau provient d'une archée, Sinon, il faut imaginer soit qu'il est apparu donc, dans une lignée spécifique eucaryote. Certains auteurs, par exemple ce chercheur australien qui a trouvé des bactéries à noyau, pensent que le noyau pouvait être présent même chez l'ancêtre commun et ensuite il aurait été perdu chez les bactéries, et chez la plupart des bactéries et chez les archées. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu quelles sont les questions qui... Alors, des questions qui jusque-là étaient a priori complètement spéculatives, mais comme on va le voir, on a maintenant des informations à travers la génomique. Le noyau, c'est vraiment un des problèmes majeurs, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très complexe. La membrane du noyau de la cellule eucaryote est formée à partir du réticulum endoplasmique. Ça, ça ne colle pas du tout avec l'hypothèse d'une origine archée, puisque les archées ont une membrane qui est très différente de celle des eucaryotes. Et d'autre part, si on imagine que les archées ont donné le noyau, on avait au départ une membrane archée entourée d'une membrane bactérienne, alors que là, on a vraiment une seule membrane repliée sur elle-même qui est en continuité avec le réticulum endoplasmique. Et ce qui est le plus incroyable dans le noyau, c'est les pores nucléaires, qui sont des structures d'une extraordinaire complexité, et donc là, pour lesquelles on n'a aucune idée de leur origine. On ne retrouve absolument pas, ni chez les bactéries, ni chez les archées, d'éléments ressemblant à ce qui est présent chez les pores nucléaires. Alors, quelques mots de la génomique. On a déjà parlé de la génomique tout à l'heure. On a vu la génomique structurale. Pedro a mentionné le fait que au départ, les gens s'étaient posé la question, est-ce que c'était intéressant de séquencer finalement les génomes ? Il a dit que maintenant, les gens étaient tous convaincus. En particulier, les évolutionnistes ont été émerveillés d'avoir à leur disposition, d'un seul coup, une masse de données incroyable au niveau de séquences pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est pour rappeler. Donc là, on a mis l'importance méthodologique, comme on a vu l'importance de du microscope électronique, l'importance de la mise au point des méthodes de séquençage. Là, le développement des méthodes de séquençage à grande échelle a permis d'apporter des informations très considérables. Là, c'est le nombre de génomes de bactéries différents, ici, d'archées ou d'eucaryotes séquencés jusqu'en 2002. Donc là, ça a continué de façon exponentielle. On en est maintenant à plusieurs centaines de génomes bactériens qui ont été entièrement séquencés. Les archées, ça traîne derrière. On en est toujours à 20-25. Les eucaryotes ont dû dépasser les archées. Ça a permis de se poser un certain nombre de questions. Par exemple, par rapport à Lucas. Là, vous avez un travail qui a été fait par Kounin, qui est un des principaux chercheurs en génomique comparée qui travaille au NCBI. C'est tiré d'un bouquin qu'il a publié récemment, dans lequel bon, on regarde le nombre de... C'est une analyse qui est portée sur 26 génomes seulement, mais représentant les trois domaines, bactéries, archées, eucaryotes. Et on regarde le nombre de protéines qui sont présentes dans... 3 génomes, 4 génomes, 5 génomes, etc., etc. Donc on voit que ce nombre diminue. Et là, on a les protéines universelles, c'est-à-dire les protéines qui sont présentes systématiquement dans tous les génomes qui ont été séquencés jusqu'à présent. Et du coup, on pense que ces protéines-là, sans doute, ont été héritées depuis Lucas. Et on voit que ça correspond à un relativement petit nombre, moins d'une centaine. Donc on peut arriver, comme ça, ici, d'avoir une idée à quoi ressemblait Lucas. Le résultat est assez intéressant. Parmi ces protéines universelles, en fait, au passage, il en reste 2 d'inconnus. Deux d'inconnus en ce sens qu'on ne connaît pas leur fonction. La plupart, sinon, sont des protéines ribosomales ou des protéines impliquées dans la synthèse des protéines, par exemple des aminoacides thérapinsynthétases, etc. On a également, et ça c'est intéressant, les protéines qui sont impliquées dans la localisation des protéines membranaires, les protéines membranaires qui fabriquent l'ATP, donc ce qui suppose, on suppose donc que Lucas très certainement avait une membrane assez proche de la membrane actuelle avec les systèmes de production d'énergie. On n'a pas de protéines du métabolisme parce que les protéines du métabolisme sont très facilement perdues ou transférées d'un génome à l'autre et donc en fait on ne les retrouve pas dans la liste des protéines universelles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à part quelques protéines impliquées dans la recombinaison de l'ADN, on ne trouve pas dans la liste les protéines qui répliquent l'ADN. Et pour expliquer ça, Kounin a proposé en 1996 qu'en fait Lucas appartenait peut-être encore au monde ARN, son génome aurait été constitué d'ARN. Et l'ADN aurait été inventé indépendamment ensuite, d'une part chez les bactéries, d'autre part dans une lignée commune aux archées et aux eucaryotes, puisqu'en fait, là encore, les archées ont un système de réplication de l'ADN qui est très proche du nôtre, alors que les bactéries ont un système de réplication de l'ADN qui est très différent. Alors, il y a eu d'autres propositions, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. J'y reviendrai si vous voulez dans la discussion. Bon, ça, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas bien cette histoire de monde ARN. On a vu tout à l'heure qu'on avait 3 types de macromolécules dans tous les êtres vivants actuels. Les ARN, les protéines et l'ADN. Pendant très longtemps, bien sûr, on s'est posé la question, puisque pour faire de l'ADN, il faut des enzymes comme les hélicases, les topoisomérases, pour pouvoir répliquer l'ADN. Et ces enzymes, topoisomérases, hélicases, polymérases, elles sont codées par l'ADN, donc c'est l'œuf et la poule qui a commencé, l'ADN, l'ARN, l'ADN ou la protéine, l'œuf et la poule. Et on a été très content quand on s'est aperçu que les molécules d'ARN pouvaient jouer les deux rôles, c'est-à-dire qu'elles pouvaient jouer un rôle de gène. On sait qu'on a des virus ARN, dont le génome est fait d'ARN, mais on a également des enzymes ARN qu'on appelle les ribosomes. Donc on peut imaginer un monde où les fonctions tenues aujourd'hui par les protéines et l'ADN étaient tenues uniquement par l'ARN. On sait maintenant également que l'ARN a commencé par inventer les protéines, puisque dans le ribosome, au niveau du site actif, pour assembler les acides aminés, on ne trouve que de l'ARN. Et ensuite, on a eu donc apparition de l'ADN. La question qui se pose du coup, c'est est-ce que Lucas faisait encore partie de ce monde ARN plus protéines, ou est-ce que l'ADN était déjà apparu chez Lucas? C'est une des questions qui est actuellement en discussion parmi les gens qui s'intéressent à la génomique comparée. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, je ne sais pas combien de temps il me reste, pas beaucoup, très vite, c'est les virus. J'ai déjà fait allusion aux virus. Où sont les virus dans l'arbre universel? Comme les virus n'ont pas de ribosomes, ils sont incapables de fabriquer leurs protéines, ils n'ont pas d'ARN 16S, ils ont été évacués de l'arbre universel. Alors les virus, ceci dit, sont très très variés, extraordinairement variés. Ça, c'est un virus qui a été récemment découvert par David Prangrejvili, qui travaille à Pasteur avec moi, qui a un petit crochet, vous voyez, pour agripper un poil de bactéries, d'archées plutôt, dans ce cas-là. Pendant très longtemps, l'hypothèse la plus populaire, c'était de dire que, en fait, les virus correspondaient à des fragments de génome qui étaient devenus indépendants et qui étaient devenus pathogènes. Et dans ce cas-là, on pensait que le génome des bactériophages, les virus qui attaquent les bactéries, provenaient de gènes bactériens, et ceux des virus eucaryotes, donc attaquant les cellules eucaryotes plutôt, provenaient de gènes eucaryotes. Donc on avait une dichotomie basée sur l'ancien concept procaryote-eucaryote, qui a eu des conséquences importantes au niveau institutionnel. Vous avez des congrès de virologie où il n'y a pratiquement personne ne parle de bactériophages. Vous avez des communautés assez indépendantes qui se sont constituées autour de cette notion. Bon, je vais passer à celle-là. Je me suis intéressé depuis pas mal de temps aux virus, et j'avais proposé il y a quelques années que, en fait, les virus étaient plutôt très anciens. Peut-être qu'ils avaient précédé Lucas, et peut-être qu'ils provenaient d'anciennes cellules, par exemple de cellules ARN, qui auraient été parasites d'autres cellules ARN et qui auraient perdu leur système de traduction. Donc, en fait, pour faciliter les choses, l'idée, c'était de faire remonter l'apparition des virus à une période où on avait des cellules primitives qui avaient pu évoluer, régresser pour donner des virus. On sait qu'aujourd'hui, les cellules modernes n'ont jamais régressé pour donner des virus. Qu'on soit chez les archées, les bactéries ou les eucaryotes, on a des cas de régression importantes par parasitisme. On finit toujours par des formes cellulaires. Alors, ce qui est apparu ces dernières années, c'est qu'en fait, on a réalisé, en séquençant de nouveaux virus, en analysant plus, qu'il existait des caractères homologues, au sens d'homologie définie au siècle dernier par les évolutionnistes, entre des virus attaquant les animaux et les bactériophages. Par exemple, ici, vous avez un phage qui attaque une bactérie Bacillus subtilis, qui a dans le génome, l'organisation du génome, la polymérase qui réplique le génome, et sont homologues avec les adénovirus qui attaquent l'homme. Sur une enzyme dont a parlé tout à l'heure Vincent Croquette, les ADN topoisomérases, ça c'était une phylogénie, un arbre évolutif des ARN topoisomérases de type 2. Vous avez ici celle des eucaryotes, ici celle des bactéries. Vous voyez que celles des virus en rouge sont situées entre les deux. Et là, vous avez des virus qui attaquent les bactéries, qui ne sont pas du tout groupés avec les bactéries, mais exactement entre les deux, et plutôt avec des virus qui attaquent les eucaryotes. Et plus récemment, Dennis Bamford à l'université d'Helsinki a montré clairement des homologies de structure, donc ça c'était une donnée de la génomique structurale, des homologies de structure entre un bactériophage ici et un adénovirus, donc encore une fois un bactériophage qui attaque une bactérie, l'adénovirus qui attaque l'homme. Vous voyez ici des folds qui sont tout à fait semblables, et le même type de fold a été retrouvé dans les protéines de capsides de virus d'archées. Donc on a des virus attaquant les trois domaines qui ont clairement une origine commune avant Lucas. Des auteurs récemment, un japonais et un néo-zélandais, ont même proposé que le noyau eucaryote, en fait, peut-être pourrait dériver d'un gros virus à ADN, du type du virus de la variole, des virus qui se répliquent comme le noyau dans le cytoplasme des cellules eucaryotes, qui forment leur membrane comme le noyau à partir de membranes du réticulum endoplasmique, et qui se répliquent en fait dans des mini-noyaux, qui transcrivent leur ADN dans des mini-noyaux et exportent leur ARN dans le cytoplasme. Et bien sûr, ça nous fait penser au mini-virus qui a été découvert à Marseille l'année dernière, qui est le plus gros virus connu, avec un génome de 1 200 000 paires de bases, donc 2 à 3 fois plus gros que les plus petits génomes de bactéries, qui a une taille en fait d'une petite cellule bactérienne et qui code même pour quelques protéines de la traduction. Ce mimivirus se réplique en fait à partir de la membrane nucléaire. Il utilise la membrane nucléaire apparemment pour fabriquer sa propre membrane. Donc là, vous avez un noyau cellule eucaryote, et c'est une amibe infectée par ce mimivirus. Et là, c'est un arbre universel dans lequel le mimivirus a été intégré, basé sur les protéines En fait, on trouve dans le génome de ce mimivirus code pour 7 protéines qui sont dans la liste des protéines universelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et lorsqu'on fait une phylogénie basée sur ces 7 protéines, en fait, ils se retrouvent entre les eucaryotes et les archées. Et donc la question se pose, est-ce qu'il sera le représentant d'un quatrième domaine, pas d'un quatrième virus, c'est une erreur. Est-ce qu'on aura un quatrième domaine ici, donc, qui aurait dégénéré, on n'aurait plus de représentant cellulaire, mais on aurait simplement un représentant viral. Est-ce qu'un ancêtre du mimivirus est à l'origine du noyau des cellules eucaryotes, ou bien est-ce que simplement il a piqué ses gènes à des amibes contemporaines, comme le pensent d'autres collègues. Voilà le genre de questions qui se posent. Pour terminer, donc, des spéculations plus personnelles, est-ce que les virus ont joué un rôle dans l'apparition de l'ADN? Ce qui est très curieux, c'est que chez les virus, on trouve des génomes ARN, on trouve des génomes ADN, mais on trouve également des génomes ADN avec de l'uracile, donc une des bases qui normalement se trouve que dans l'ARN, mais pas dans l'ADN. Et au point de l'évolution, on peut imaginer en fait qu'on a eu tout d'abord des génomes ARN, ensuite des génomes ADN, et ensuite des génomes, enfin avec de l'uracile, et ensuite des génomes ADNT. Donc est-ce que les virus ont joué un rôle dans cette apparition? Et là, il faut se poser la question, pourquoi l'ADN a remplacé l'ARN? La réponse traditionnelle, c'est que l'ADN est plus stable que l'ARN. D'une part, parce que son oxygène, l'ARN en fait a un oxygène en 2' qui est très réactif, qui rend la molécule plus instable que l'ADN. Et d'autre part, une des réactions qui se produit le plus souvent dans les acides nucléiques, c'est la déamination des cytosines, qui remplace une cytosine dans l'ARN par un uracile. Si vous remplacez un C par un U dans l'ARN, vous ne pouvez pas corriger parce que c'est normal qu'il y ait des U. Si vous remplacez un T par un U dans l'ADN, ce n'est pas normal, donc vous pouvez corriger, la cellule voit qu'il y a une erreur, elle corrige. Et donc on dit que ça a permis d'augmenter la taille des génomes. Et donc l'ADN c'est mieux que l'ARN, donc ça a remplacé l'ARN. Mais ça, seul Dieu pouvait le prévoir, parce que c'est exactement comme de dire pourquoi les dinosaures avaient des plumes. Bien parce que les oiseaux vont voler, donc comme les oiseaux proviennent des dinosaures, c'était important qu'il y ait des plumes pour que les oiseaux puissent voler. Darwin dirait qu'il faut comprendre en fait quel a été l'avantage sélectif acquis par le premier organisme avec un génome à ADN. Et l'idée, ça serait qu'en fait, l'ADN aurait été inventé par des virus. On sait qu'aujourd'hui, il existe des virus qui ont modifié leur ADN. Par exemple, ce bactériophage a, au lieu d'avoir de la cytosine dans son génome, il a de l'hydroxyméthylcytosine. Et donc, on peut très bien imaginer qu'un virus ARN a modifié son ARN pour avoir déjà de l'ADN avec de l'uracile, ensuite pour avoir de la thymidine, etc., de façon à chaque fois à résister au mécanisme de l'hôte utilisé pour éliminer, bien sûr, le virus. Donc ça, c'est une spéculation, bien sûr. Je termine juste sur deux spéculations comme ça. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, l'ADN aurait été transféré des virus aux cellules. On peut imaginer ça de cette façon. Là, vous avez une cellule ARN avec le génome en bleu ARN, infectée par un virus à l'état porteur, un virus à ADN. Au bout d'un moment, ce virus peut-être perd des facteurs des gènes de virulence ou de capside. Il devient en fait une sorte de plasmide résident dans la cellule ARN. Et si vous avez une possibilité de rétrotranscription, on sait que ça existe, eh bien peut-être que ce génome-là qui se réplique plus vite, la cellule a intérêt à mettre ses gènes sur ce génome et finalement, on va avoir à la fin une cellule avec un génome à ADN. Donc c'est un modèle dans lequel les virus seraient nos ancêtres. Et je ne me fais pas d'illusions, j'aurais beaucoup de mal à le faire avaler en France, où on nous apprend depuis tout petit que nos ancêtres, en fait, sont les Gaulois. Et ce que j'ai proposé récemment, c'est ma dernière spéculation, c'est qu'en fait, ce transfert de l'ADN des cellules vers les virus pourrait correspondre à ce que Carlos avait appelé le Darwinian Threshold, et on pourrait imaginer finalement que ça s'est peut-être produit 3 fois indépendamment. On aurait eu 3 virus différents qui auraient donné leur ADN à 3 cellules ARN différentes pour donner les 3 domaines. Alors, dernière diapo, d'où viendront les nouvelles avancées du XXIe siècle? Bien sûr, de nouvelles technologies. On a vu le rôle que les technologies ont joué dans toute cette histoire. Également de nouveaux concepts, mais je pense également de la poursuite de l'exploration. Là, on a vu ce mimivirus auquel personne ne s'attendait à trouver un virus aussi gigantesque. Personne ne s'attendait à trouver des bactéries avec des noyaux. Et donc, je pense qu'un aspect important, c'est... J'ai commencé avec le 19e siècle qui a été le siècle de l'exploration pour les biologistes. Et beaucoup de gens ont l'impression que c'est terminé, mais en fait, je pense pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'organismes très intéressants à aller chercher sur le terrain. Je vous remercie.